Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Cube Radio. Il connaît tous les dessous de la politique.
Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
Antoine Robitaille.
Là-haut sur la colline.
Là-haut sur la colline. Cube Radio.
Bon vendredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, les bulletineuses Yasmine Abdel-Fadel et Sophie Villeneuve remettent des bonnets d'âne chicanes d'adolescentes à Geneviève Guilbeault et Marois Risky, mais aussi à Christine Saint-Pierre et Lise Thériault, un méritas présidente à Joël Boutin et un méritas juste indignation à Ruba Gazal. Mais d'abord, c'est vendredi, jour du dialogue des barbus.
C'est pas moi qui dis ça, c'est mon tonton Thomas.
C'est pas moi qui dis ça, c'est mon tonton.
Y'a sa barbe qui pique un peu, y'a des grosses taches sur son bleu. Mais tonton l'air de rien a de l'or dans les mains.
Mais tonton l'air de rien a de l'or dans les mains.
Bonjour Thomas Mulcair.
Hey, salut l'autre barbu.
Notre barbu, notre tonton Thomas, accessoirement collaborateur à la Joute et chroniqueur au journal, et dans son studio Suzuki, il roule aujourd'hui.
Ben oui, ne vous inquiétez pas, comme dirait Charest, j'ai les deux mains sur le volant.
J'aime ça quand tu cites Jean Charest, Thomas Mulcair.
Je ne suis pas sûr que lui, il aime ça, par exemple.
OK. Ta chronique ce matin s'intitule « Avec une crise, l'important, c'est d'apprendre ». Puis tu contrastes vraiment la position du Québec actuellement et la position des provinces où il y a eu des négationnistes de la COVID.
Oui, parce que ici, évidemment, le week-end dernier, on a eu droit à nos négationnistes. Mais c'était quand même circonscrit et c'était, bon, des flyers qui avaient loué des autobus pour venir exprimer que tout ça, c'était un complot du gouvernement pour nous contrôler. Mais dans une place comme Alberta, Jason Kenney est aux prises avec une fronde de la part de ses propres députés. Rappelons qu'un de ses faits d'armes politiques, et c'était toute une prouesse, il y avait les conservateurs n'étaient pas assez conservateurs en Alberta, au goût des gens vraiment de droite. Donc, ils ont fondé une partie qu'ils appelaient Wild Rose.
Ben oui.
Sauvage, on pourrait traduire. Donc, eux, ils sont pas assez proches de former un gouvernement à un moment donné. Donc, Kenney a dit, moi, je vais unite the right. Je vais unifier la droite sous un parapluie qui va être ce parti conservateur unifié. Très bien. Il réussit son coup, Antoine. Quand même, en termes politiques, c'était un coup de maître ce qu'il a réussi.
Ben oui. Mais voilà, il a réussi à déloger le NPD du pouvoir.
Ben oui. Mais en ce moment, ces statistiques dans les sondages, ces chiffres sont en chute libre.
Ben oui.
Parce qu'il est contesté de l'intérieur par cette même frange qui dit ça n'a pas de bon sens, il enlève nos libertés. Donc, c'est comme s'il avait une frange qui suivait les prêches de Maxime Bernier.
C'est
donc,
ça.
Il est aux prises avec ça. Et quand il annonce, donc, il a fait une conférence de presse sans fin avant-hier. Donc, c'est la plus longue conférence de presse que j'ai vue dans quelques juridictions, que ce soit depuis le début de la pandémie.
C'est vrai? Combien de temps ça a duré?
Moi, je dirais au moins une heure.
OK.
Et en passant le puck de l'un à l'autre, son ministre de la Justice vient expliquer telle affaire, puis son ministre de la Santé, puis sa personne responsable de la Santé. Ça finissait pas. Donc ça, en soi, en termes de communication politique, ça veut dire que tu n'as pas travaillé tes lignes d'avance. Mais il essaie de convaincre les gens, comme il pouvait. Il a dit qu'il va y avoir des restrictions. Mais j'écoutais les restrictions. Les gens sont encore au restaurant. Les gens peuvent encore prendre un verre en ce moment, et ils gardent tout ouvert pendant la fin de semaine de la fête des mères. Puis la semaine prochaine, il va commencer à restreindre un peu, par exemple, pour les coiffeurs ou peu importe. Donc, vraiment pas des restrictions adéquates. Et c'est la province, c'est plus de 4 millions de personnes quand même à Alberta, c'est pas petit. Mais c'est la province de loin avec le pire bilan en ce moment. Et alors, il suppliait les gens, il disait qu'il y aura plus de place bientôt dans les urgences et dans les soins intensifs. Il faut arrêter de déconner. Mais lui-même, il refuse de prendre des actions qui s'imposent. C'est
ça
mon point quand je dis il faut apprendre. Ben oui, au pire de la deuxième vague, ce pauvre Jason Kenney, il va devant les caméras, il dit, ah là, il va falloir vraiment être strict. Hein? Alors, il a dit, dorénavant, last call dans les bars, 10 heures le soir, pour vous devez partir à 11 heures. Mais c'est littéralement le cas.
Ah, alors, c'est drôle parce que j'avais beaucoup aimé sa phrase récemment. Il avait dit, là c'est moi, c'est ma traduction, « Aucune notion politique abstraite n'empêche les gens de venir engorger les unités de soins intensifs. » Je trouvais ça brillant. C'est vrai que...
C'est une phrase brillante qui veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire arrêter de nous fatiguer avec vos théories de complot et dire que ça enfreint vos libertés.
Et la liberté, l'instrumentalisation d'une notion de liberté qui serait sans limite, alors qu'on vit en société, on est des êtres sociaux. Quand il y a une pandémie, faut vraiment faire des gestes concrets pour faire des barrières.
Ben, tout à fait. et d'ailleurs, donc si on regarde la carte du Canada en ce moment, on dirait que c'est alterné interne. Colombie-Britannique se débrouille assez bien. Ils ont des gens solides. Et la politique a laissé place à la santé publique. Alberta, catastrophe totale. Saskatchewan, ça va tellement bien. Scott Moe, un gars responsable, expérimenté, suivi par sa population. Il vient d'être élu avec une majorité mirabolante. Et à tel point que François Legault dit, ben, j'aime bien le modèle parce qu'il y a des mesures.
Ben oui.
On va dire, du moment qu'on atteint telle cible, on peut ouvrir tant. Il dit, j'aime bien cette approche-là. Puis le public ne demandait pas mieux. Manitoba, catastrophe totale. Ontario, ils viennent d'appeler l'armée. Quand je dis qu'il faut apprendre en pandémie de la gestion, le Québec a appris.
Mais oui.
On a quelque chose dans notre caractère. Quand c'était des, et là je fais des guillemets en l'air, quand c'était des directives, le public disait, garde, ça c'est ton opinion, la mienne vaut autant, je suis pas. Mais du moment qu'on avait quelque chose de clair, de mesurable, de facilement applicable, c'est-à-dire un couvre-feu, bang, tout d'un coup, on a cassé le dos
de
la deuxième vague qui s'en allait très mal. Et à travers le Canada, parmi les grandes provinces, les quatre grandes provinces, Ontario, Québec, Colombie-Britannique et Alberta en termes de population, ben, à travers le Canada, le Québec va super bien comparativement pendant la troisième
mais
vague. Le Grand Montréal, 4 millions de personnes.
C'est le meilleur scénario pour François Legault. Tu sais, commencer comme un cancre, puis finir comme le meilleur, c'est ce qu'il y a de mieux. Puis déjà, qui est fort dans les sondages, on le voit ce matin.
Ben oui, mais...
Puis il réussit sa campagne de vaccination, en plus.
en plus et en plus. Parce que la campagne de vaccination au Québec, les chiffres, là, avec les doses qui s'en viennent, on va être capable de frapper une cadence de 100 000 par jour, puis une généralisée pour les plus âgés, puis les mêmes groupes d'âge vont commencer pour la deuxième dose prochainement.
Ben oui.
Alors, et la mairesse Plante que de dire qu'elle veut ouvrir les terrasses à Montréal pour le 1er juin, et je pense pas que c'est irréaliste.
Mm-hmm.
Donc, le public commence à sentir que cette fameuse lumière au bout du tunnel, ben, c'est bien. C'est là, on peut y arriver. Et ça, c'est un énorme soulagement.
Okay.
Mais le Québec a appris à appliquer des choses.
Oui, c'est ça. Puis le Québec croit à la vaccination, on le voit ce matin dans le sondage, 82%.
85%.
Alors qu'en France, c'est beaucoup plus bas, hein? Toi qui connais bien la France, qui a un pied en France aussi.
Je connais bien les Français sont très sceptiques à l'égard de leur gouvernement d'une manière générale.
Ouais.
Et ils ont tellement foiré tout en France depuis le début de la pandémie. Nous, on peut bien se lamenter. La première vague, c'était une catastrophe. Mais... La France, c'est catastrophe par-dessus catastrophe par-dessus catastrophe.
C'est ça.
Incompétence totale. L'École nationale d'administration ferme. Mettez la clé dans la porte. Puis s'il n'y avait pas des narcs en train de gérer le gouvernement français, juste des gens avec de l'expérience et du gros bon sens, il aurait des chances.
Parlons de la langue française maintenant. Le gouvernement Legault pourrait retirer ou il songe à retirer le statut de ville bilingue aux municipalités qui n'ont plus le nombre suffisant de citoyens non francophones. Est-ce que c'est
pas une bonne idée?
C'est une bonne idée, pour promouvoir le français.
Qu'est-ce que ça empêche la promotion du français qu'une personne qui habite dans une ville qui jadis avait 56% d'anglophones qui est rendue à 48% que cette personne-là reçoit son compte de taxes?
Non, à Turnburn Park, c'est 6,8% actuellement.
On peut parler de l'historique de ces trucs-là. Mais ça date du mois d'août, 26 août 1977. C'était l'article 113F de la version originale de la loi 101 qui disait que dans les municipalités qui étaient qui étaient en majorité d'une langue autre que le français, on pouvait faire des choses bilingues. il y avait eu des bras de fer. Ah, ben, est-ce que c'est une langue ou du moment que c'est moins que 50% francophone? Non, non, c'était la version plus restrictive. Mais cette reconnaissance a été donnée. Et que ce soit Gérald Godin ou un autre qui était responsable de l'achat de la langue française, parce que c'est pas d'hier que ces municipalités-là ne sont plus à 50% d'anglophones, on se le dit. Mais c'est un droit acquis qui a été respecté par tous les gouvernements.
Est-ce que c'est un droit acquis? Parce que le gouvernement Marois, avec le projet de loi 14, voulait remettre ça en question, dire que ça devrait être revu tous les 10 ans, selon le recensement de la population. Est-ce que c'était pas une bonne solution, ça?
Ben, regarde, si t'es capable de me dire, tu me regardes dans les yeux, de me dire, comment le fait français au Québec est menacé parce que à Beaconsfield, les gens reçoivent leur compte de taxes bilingue, je vais te suivre parce que je te crois.
S'il y a des nouveaux arrivants, c'est toujours la difficulté de promouvoir le français langue commune, Tom. Mais tu sais, tu le dis, tu le soulignes souvent qu'au fédéral, Mélanie Joly, Trudeau, ils ont changé leur discours maintenant. On sait bien que c'est le français et non l'anglais qui a besoin de protection sur le territoire du Québec.
Ça, c'est évident. Mais pour cette communauté que M. Legault et Simon-Jolin Barrette et Christopher Skeet, un peu moins connu, mais qui est le bras droit député de Laval et membre d'une minorité visible, qui porte parole pour le gouvernement dans ces dossiers-là, ils ne cessent de nous rabâcher les oreilles avec la communauté anglophone historique. Et justement, c'est historique. Puis tu viens de donner un chiffre qui le prouve. Mais ça enlève quoi? Objectivement, si tu as déjà mis des pieds à Otto Burn Park, qui est mon cas, ou à Greenfield Park, ça enlève quoi? Le couple qui reçoit le patente à gauche.
Mais peut-être que des immigrants qui viendront s'installer vont mieux comprendre que la langue commune, c'est le français. Ça envoie un signal. Puis l'anglais, de toute façon, avec le web, le numérique maintenant, Netflix et compagnie, nous sommes dans une classe d'immersion, donc l'anglais n'est pas en danger.
Bonne question. Est-ce que tu m'as déjà entendu dire que l'anglais était en danger? Mais que le dépliant d'une municipalité qui est envoyée depuis 1977, qui est envoyée bilingue, continue d'être bilingue, parce que le plus récent, son coût de recensement a déterminé que, si tu es capable de me regarder droit dans les yeux et me dire, pour moi, le fait français,
C'est comme les factures bilingues d'Hydro-Québec. On envoie toujours le signal que le français est la langue commune. Si on envoie une facture en français, à moins d'en faire la demande express, là, tu sais, c'est comme ce que Simon-Jeanlin Barrette a annoncé hier, là, le décret qui impose la langue française vraiment dans l'administration publique québécoise.
Oui. Ben, écoutez, moi, ce que je vais faire, par contre, c'est que avant de commencer à m'énerver avec ce qu'ils sont en train de faire, je vais attendre de voir ce qu'ils proposent. C'est radical comme idée de lire la proposition avant de réagir.
Okay.
Parce qu'il peut avoir, comme tu viens de l'indiquer, il y a peut-être moyen de ménager le chèvre et le chou, genre demande express, qui enlève rien à personne, puis c'est pas généralisé que tout est bilingue. Ça, c'est peut-être un moyen de moyenner. Mais en dehors de ça, je ne peux pas m'empêcher d'avoir le sentiment que Simon-Jeanlin Barrette, c'est pas un bout de feu, c'est un apprenti sorcier. Il suit des géants, comme Claude Ryan, comme évidemment le Dr. Camille Lorrain.
Oui, mais on n'est plus en 1977. L'anglais a une prégnance encore plus forte qu'à l'époque. C'est pas la madame de chez Eaton, là. c'est Netflix.
La grosse maudite anglaise.
Oui, c'est ça.
Pierre McDonald's.
Oui, c'est ça. C'est, on n'est plus à cette époque-là. On est à l'époque de Netflix et des géants du web et tu sais, des TikTok puis des Instagram qui nous anglicisent, il faut le dire.
Écoute, ça, c'est vrai que le jeune francophone qui est en train d'étudier au séminaire de Québec, il y a 45 ans, c'est sûr qu'il n'avait pas besoin d'avoir une connaissance suffisamment approfondie de l'anglais pour écrire constamment. Alors qu'aujourd'hui, il y a tellement de choses dans le domaine des communications sociales qui exige cette connaissance écrite de l'anglais, que la donne a effectivement changé. Et je suis très sensible à ton argument clé, qu'il faut continuer d'envoyer le signal que le français, c'est la lingua franca au Québec. J'accepte ça volontiers et je travaille pour ça. Mais je terminerai peut-être là-dessus.
Ouais.
C'est-à-dire que les anglophones que moi je côtoie, puis je suis plus jeune aujourd'hui, j'ai 66 ans, mais je suis impliqué dans ces questions-là depuis que je suis dans la jeune vingtaine. Je connais la communauté. J'ai supplié, j'ai appelé les gens de comprendre, d'accepter que le français, c'était la langue commune au Québec.
Oui.
Les gens ont fait beaucoup d'efforts. Leurs enfants sont pas juste allés à l'école immersion. Leurs enfants, ils les ont envoyés à l'école française. Et ils ont non seulement accepté cette évidence, cette réalité, ils embarquent, ils sont joyeux, ils sont heureux d'en faire partie. Puis à chaque fois qu'un Simon Jeanlin Barrette décide d'en faire un outil politique, pour essayer de picasser un petit peu. Puis je vois, à ma plus grande déception, en fait, Pascal Bérubé sauter dans la mêlée.
Ouais.
Ça, c'est des vieux réflexes qui n'apportent rien de positif.
Eh bien, merci beaucoup, Thomas, pour ce dialogue des barbus du vendredi. Puis bonne chance pour la suite.
Merci. Je suis très content de continuer cette discussion avec toi. Et je soupçonne qu'on est plus d'accord que les gens peuvent penser en nous entendant en parler.
OK, c'est bon. Salut, Tom.
À très bientôt.
Au revoir. À la semaine prochaine.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline.
Qui c'est qui est très gentil?
Très gentil.
Qui c'est qui est très méchant?
Très méchant.
Qui a tous les premiers prix?
Très gentil.
Qui roupille au dernier rang?
Très méchant.
Gentil et méchant, c'est ce que nous sommes alternativement avec les bulletineuses du vendredi. Bulletineuses, car avec elles, tous les vendredis, on remplit le bulletin de nos élèves de la colline. Et c'est pas juste la période de questions qu'on surveille, mais aussi les crédits cette semaine. On remet nos bonnets d'âne et nos méritas. Bonjour Sophie Villeneuve et Yasmine Abdel-Fadel.
Bonjour Antoine.
Bonjour Antoine.
Nos bulletineuses sont deux ex des arcanes politiques. Sophie est maintenant présidente de Article 79, un service de surveillance parlementaire. Et Yasmine est consultante en communication et relations gouvernementales. Et c'est, comme dit Yves Bolduc, Yasmine qui décide. Elle donne le méritas numéro un. On commence par être gentil.
Le premier méritas à Mme Gazal, qui est députée de Québec solidaire, qui s'est levée en chambre cette semaine pour témoigner de son vécu d'immigrante, finalement, et dire qu'elle a été blessée par les propos du premier ministre François Legault. Rappelons que François Legault, lors d'un événement avec le Conseil du patronat, il a dit que des immigrants qui gagneraient moins que 56 000 $ par année, ben ça l'intéresse pas parce que ça fait diminuer la moyenne, le revenu moyen des Québécois. Alors, Mme Gazal s'est levée, s'était sentie, et des propos comme ça, là, ça peut être choquant, ça peut blesser.
Oui.
C'est le fun de voir qu'une immigrante de première génération qui est venue, qui a étudié, dont les parents ont beaucoup travaillé, ben, se retrouve aujourd'hui comme représentante du peuple à l'Assemblée nationale. Méritage à Mme Gazal qui se lève souvent pour faire part de ses valeurs et de ne pas être gênée de les exprimer.
Oui, Sophie, sur ce sujet.
En fait, c'est un bel exemple, je trouve, d'intégration réussie qui permet à un immigrant, justement, première génération, de se retrouver dans un poste puis dans des conditions très favorables. Moi, j'ai pas été infiniment choquée, je dois dire, par les déclarations de François Legault. Je pense effectivement que la création de la richesse passe par des emplois plus payants. Il faut que ça touche tout le monde. De dire l'inverse pourrait être plus choquant, à savoir de vouloir cantonner des immigrants dans des emplois moins intéressants, moins attrayants, moins payants. À mon sens, ce serait plus choquant.
Mais dans les propos du premier ministre, il y avait comme une réduction de l'immigrant à son apport économique. Et évidemment, c'était dans un contexte économique, là. Je comprends qu'il parlait à des chambres de commerce.
Mais tout de même.
C'est ça, tout de même.
Ouais. Mais tout de même, c'est l'immigration, l'apport de l'immigration, elle est certes économique, puis c'est le vieillissement de la population qui fait en sorte qu'on a besoin de talents de partout dans le monde pour venir relever les défis économiques ici au Québec. Mais ce n'est pas juste ça. Et souvent, là, on va se dire, la pénurie de main-d'œuvre que l'on connaît et que l'on ne veut pas reconnaître que la partie gouvernementale, c'est les immigrants qui viennent et qui occupent des emplois dans les manufactures, dans les usines de montage, dans les restaurants. C'est des emplois, là, que c'est pas 56 000 $ là, par année. Ben, c'est beaucoup d'immigrants qui occupent ça. Puis leur dire que, ouais, non, c'est pas vraiment ça qu'on veut, nous, du monde de même, ben, ça diminue finalement la valeur et l'apport de ce monde-là.
Ouais, j'ai pas entendu comme ça. Moi, j'ai plutôt eu l'impression qu'il fallait justement valoriser le fait d'aller chercher de l'immigration qui peut aussi occuper une place. Parce que je suis pas d'accord avec toi. L'immigration, ça, c'est autre chose que juste économique. Ça vient créer une diversité. Ça vient créer culturellement des différences. Puis ça vient donner un accès, une ouverture. Tu sais, je suis 100% d'accord avec toi là-dessus.
Puis le 56 000, on peut l'atteindre à la deuxième, troisième génération assez rapidement aussi. Là. C'est ça l'affaire.
Exactement.
Ouais. C'est peut-être ça le problème de la déclaration de M. Legault. Donc, Sophie, toi, ton premier méritage va à qui?
Hey, moi, je donne un méritage cette semaine à une présidente de commission parlementaire qui a eu à jouer un rôle un peu particulier. Bon, on voit que des fois, le président du Salon Bleu doit intervenir pour calmer les esprits. Mais en commission parlementaire, c'est rare que le ton monte autant que ça. Puis là, ben, j'ai eu l'impression que Joël Boutin, député de Jean-Pierre, a eu à intervenir, à faire l'arbitre. Vous vous rappelez de l'émission dans le sens Goldwater, l'arbitre? Ben, j'ai eu l'impression que dans l'échange entre la vice-première ministre Geneviève Guilbeault puis la députée Saint-Laurent Marwaski cette semaine en commission parlementaire pendant les crédits sur la capitale nationale, on assistait à un épisode de l'arbitre. Je ne sais pas si vous avez vu. Avez-vous vu l'échange, Antoine, Yasmine?
C'est fabuleux. Moi, je l'ai regardé en direct, puis j'ai tweeté là-dessus, puis j'étais très content que Michael Labranche de Zone Asnat fasse un montage parce que c'était un échange, l'échange de la semaine. Là. Parfois, vraiment en bas de la ceinture, comme on dit. Si ça avait été deux hommes qui s'étaient chamaillés de même, de quoi on aurait parlé? De combat de chat de gouttière? Et si ça avait été un homme qui avait parlé comme ça à une femme, moi, je pense qu'on l'aurait traité de condescendant. On aurait crié au mansplaining.
Tu veux dire l'attitude que Geneviève Guilbeault a eue à l'endroit de Marois-Risky?
Surtout. Mais Marois-Risky aussi, à l'occasion, avait des propos très durs.
Limite.
Yasmine, un mot là-dessus?
C'est le combat de deux femmes très fortes, là, qui sont aussi très partisanes chacune de leur côté, qui sont capables d'attaques très. On est loin de Jean Boulay, puis de Carlos Leitao, là, c'est pas le genre d'échange. Geneviève Guilbeault puis Marois Risky, là, tu sors de popcorn, tu t'installes confortablement, puis tu regardes ça, c'est une bonne émission télé.
Bien, bonnet d'âne maintenant. Soyons méchants un peu, là. Yasmine.
Écoute, Vincent Marissal, il reproche au gouvernement d'avoir baissé les taxes scolaires. Puis, honnêtement, là, c'est-tu vraiment la question la plus importante à poser en période de questions? Puis, faut-tu être assez déconnecté pour reprocher au gouvernement d'avoir baissé la taxe scolaire? On dirait que Québec solidaire mène la guerre contre les propriétaires de maisons. Comme si être propriétaire de maison, c'est faire partie du 1% capitaliste qui tue le monde, puis qui est... écoute, ça n'a pas de bon sens, là. Les taxes scolaires, c'est beaucoup trop élevé. Le gouvernement a très bien fait de baisser les taxes scolaires. On est quand même une des nations les plus taxées en Amérique du Nord. Éric Girard, il avait une très bonne réponse à ça. Il a dit, je préviens juste au Québec que de me lever en chambre pour m'excuser d'avoir baissé les taxes.
Sophie, là-dessus?
C'est effectivement une bonne répartie. Non, moi non plus, j'ai pas compris. En fait, de manière générale, tu sais, Vincent Marissal est pas très flamboyant depuis qu'il est député. Puis, de se lever sur des sujets comme ceux-là qui sont vraiment dans les extrêmes des positions de Québec solidaire, c'est extrêmement lissé. Fait que moi non plus, j'ai pas compris l'idée de venir avec ça en période de questions. Par rapport à la crise du logement, il y a tant à dire, puis il y a tant à faire, mais de revenir sur l'abolition des taxes scolaires, je l'ai pas compris.
C'est qu'il y a beaucoup de propriétaires très fortunés qui ont vraiment une baisse de taxes spectaculaire. En 2018, au journal, on avait fait une comparaison, par exemple, entre les taxes scolaires avant la baisse et après la baisse du domaine de Sagard, des démarrais. Mm-hmm. Et ils économisaient 111 000 $. C'est quand même quelque chose. Je pense que c'est de ça que parlait Vincent Marissal, mais c'est peut-être sorti un peu tout croche, d'où le bonnet d'âne que vous lui remettez. Sophie, toi, à qui remets-tu un bonnet d'âne?
Ben, je mettrais un... Tu sais, je reviendrais sur ce qu'on disait il y a quelques minutes, puis bon, on a donné un méritage à la présidente de commission parlementaire, Joëlle Boutin, mais là, je donnerais un bonnet d'âne. Chicane d'adolescente pour les affrontements, Lise Thériault, Christine Saint-Pierre et Marois Risky, Geneviève Guilbeault. Il y a eu des affrontements cette semaine. En fait, c'était pas digne de la fonction des parlementaires, j'ai trouvé. J'ai eu l'impression... Tu as parlé de chat de ruelle tantôt, là. Ben, j'irais avec cette expression-là. Je trouve que c'est celle qui témoigne le mieux. Mais tu sais, la condescendance, ce genre d'attitude-là qu'on n'a pas envie de voir comme modèle.
De l'ultra-partisanerie débile aussi, surtout de la part de Geneviève Guilbeault.
Ah, mon Dieu! Puis,
et de Christine Saint-Pierre, peut-être aussi.
Oui, mais tu sais, on l'a mentionné à quelques reprises pendant nos bulletins au cours de la session. Geneviève Guilbeault, qui était de l'équipe B, qui remplaçait le premier ministre, les vice-premières ministres, et plutôt que d'être dans une posture dans une posture noble, digne de la fonction et tout, elle est souvent dans la condescendance, puis elle va rabrouer, puis je suis pas convaincue que ça aide à son image. Je suis pas convaincue que ça va la placer dans une posture où les gens vont avoir, tu sais, vont s'identifier à elle, puis ils vont avoir envie de la connaître, puis de lui faire confiance. En tout cas, je pense pas que ce soit une
Elle dégage quelque chose d'autoritaire, puis c'est pour ça que le mot « docile » est maintenant collé. Ouais, ça a collé, ouais. Le mot « docile ».
Pardon. Une image autoritaire, mais au-delà de ça, une image parfois un peu condescendante, parfois un peu hautaine. Mm-hmm. Ça, ben, on connaît des gens qui ont joué dans ce film-là.
Oui, Yasmine?
Ça se traduit également par sa posture physique. Je ne sais pas comment si vous l'avez remarqué, là, mais comment elle était assise durant la commission parlementaire.
Évachée.
Un peu effoirée dans sa chaise.
De côté, elle ne regardait pas la présidente, elle tournait, elle regardait à côté.
D'où l'expression de Marois Risky, on n'est pas à la taverne. C'était assez juste.
Exact. C'est pas sérieux, c'est pas digne de la fonction de vice-première ministre. Là. Elle représente le premier ministre. C'est un exercice sérieux, l'étude des crédits.
Oui.
C'est le moment d'être au sérieux, assis à table, comme n'importe qui est dans une rencontre de travail.
C'est pas le temps d'être nonchalant.
Redevenons gentils quand même. Là. Yasmine, tu remets un deuxième méritas. À qui?
À Dominique Anglade et sa gang. Antoine, ils t'ont lu, ils t'ont compris et ils appliquent tes conseils. Tu leur as dit qu'il est trop longtemps, ils prenaient un bon thème, un bon angle d'attaque, mais n'y allaient pas jusqu'au bout. As-tu remarqué que cette semaine, ben, ils sont allés jusqu'au bout de, finalement, le thème de la semaine qui était le mot en C. C'est crise, là, que personne ne veut reconnaître, comme a dit Marie-Claude Nichols. Crise du logement, crise de pénurie de main-d'œuvre. Ils n'ont pas lâché le morceau. C'était presque exclusivement sur ça, les questions. Ils t'ont entendu, puis ils essaient, on voit qu'ils essaient d'aller jusqu'au bout de leurs idées, de leurs attaques.
De compléter la mise en échec.
La clip avec ça, exactement.
En langage de hockey, on dit compléter la mise en échec. Et toi maintenant, Sophie, tu remets un méritas festival.
Oui, ben exact, je vais un peu dans le même sens que Yasmine, un méritas festival. Moi, j'aime ça quand une période de questions, c'est scénarisé. Ça a l'air prêt, puis ça ne tire pas dans toutes les directions. Mmh. Donc, je remets un méritage au Parti libéral, mais spécifiquement aux différents porte-paroles qui ont posé des questions relativement à la crise du logement, oui, mais aussi beaucoup à la pénurie de main-d'œuvre. Et là, on est allé de tous les angles. On a parlé de la pénurie de main-d'œuvre dans le secteur du tourisme, on est allé dans la pénurie de main-d'œuvre au niveau des éducatrices. C'était concerté et il était difficile de comprendre comment le gouvernement pouvait, à ce moment-là, être aussi mal préparé. Tu sais, c'est que quand on continue à taper sur un même clou de cette façon-là, puis qu'on y va sous tous les angles, ça finit par mal faire paraître le gouvernement.
Redevenons méchants. Yasmine, tu donnes un bonnet d'âne à tous les partis d'opposition. Oh!
Tous les partis d'opposition.
Pourquoi?
Méritent un bonnet d'âne cette semaine. Et on ne peut pas passer à côté du fait qu'il y a eu une démission due à de l'harcèlement psychologique allégué de la part de certains conseillers politiques envers Marie-Ève Proulx.
Mm-hmm.
Pas de question en période de questions là-dessus. Hey, c'est quand même la démission d'une ministre qui a des portes tournantes en guise de cabinet, 15 personnes qui ont dicté, plusieurs allégations d'harcèlement psychologique. C'est pas la première fois. Le premier ministre a dû mettre son pied à terre et aucune question là-dessus. Aucune. Moi, je comprends pas. Est-ce que les partis d'opposition ont peur qu'on fouille un petit peu dans leur caucus? Pourquoi ne pas poser de questions sur finalement la saga Marie-Ève Proulx et comment s'assurer que le personnel de circonscription, parce que Marie-Ève Proulx va rester dans le caucus, soit protégé? Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que c'est Anguille Souroche.
Sophie, en terminant.
Anguille Souroche, mais tu l'as dit, Yasmine, c'est difficile pour les autres partis parce que personne peut montrer 100% patte blanche. Tu sais, des cas comme ça, des situations comme ça où il y a des plaintes en milieu de travail, il y en a dans chaque parti, je pense. Tu sais, tu l'as dit, il y en a eu 11 dans la dernière année. Il y a eu 11 cas où il y a eu des plaintes en matière de harcèlement psychologique. Donc, je pense que c'est un piège puis tout le monde a voulu éviter de mettre la main dedans.
Hey, on terminerait quand même par une note gentille. C'est Yasmine qui remet un méritas à Carlos Letao.
Carlos, le Jedi Letao, est revenu encore à la charge cette semaine. Le premier ministre, en répondant à la chef de l'opposition officielle, Dominique Anglade, a prétendu que le Parti libéral avançait des chiffres de l'ordre de 140 000 immigrants par année. On sait que ce n'est pas tout à fait vrai. Mais ça a fait sortir Carlos Letao de ses gonds. Et il a, comme il dit lui-même, et je le cite, il a dit qu'il vient de scraper sa question pour essayer de corriger le premier ministre. Il est toujours...
Moi, j'y donne un bon aidan quand même, anglicisation pour ce mot.
Oui,
mais... Il aurait pu dire gâché.
Oui.
Excusez, mon oncle Samuel, il ne peut pas s'empêcher. Désolé.
Il va falloir se faire un palmarès des anglicismes et des mauvaises expressions à la Chambre. Antoine, je pense qu'on aurait du fun à ce
oui, un recueil des anglicismes non parlementaires, oui! On aurait même du plaisir, je dirais. OK. Merci beaucoup, les bulletineuses. On se reparle la semaine prochaine.
Merci, bonne semaine.
Bye-bye. Salut.
Et c'est tout pour cette semaine à La Haut sur la colline. Merci d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup même. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à lundi.
Ce segment politique vous est offert par Article 79 Surveillance parlementaire. Pour être les premiers informés de ce qui se passe sur la colline, faites confiance à Article 79. Résumé des périodes de questions, suivi des projets de loi, décrets, nominations et tous les travaux parlementaires. Voyez les forfaits et abonnez-vous sur article79.com.
Cube Radio.